Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Déclic, non masculin, moment qui détermine la compréhension d'une situation, une prise de conscience, ou les deux.
Salut, c'est Sophie et Juliette de 18h17 Productions et vous écoutez Le Déclic. Dans ce nouveau numéro, c'est Colline Charpentier qui a accepté de venir discuter avec nous. Colline Charpentier est celle qui a créé le compte Instagram Ta Pensée A, qui compte aujourd'hui plus de 120 000 abonnés et qui a contribué avec d'autres à remettre sur le devant de la scène le poids de la charge mentale qui incombe aux femmes. Après avoir dénoncé sur internet toutes les conséquences de l'éducation genrée et du patriarcat sur le quotidien des femmes via des milliers de témoignages, Colline a sorti un livre du même titre aux éditions Le Livre de Poche qui est aujourd'hui un best-seller. Aujourd'hui, nous souhaitons revenir avec Colline sur le moment où elle a décidé de parler de cette pression qui pèse sur les épaules des femmes, sur son déclic en gros. Salut Colline.
Salut.
Comment ça va?
Bah écoute, ça va super bien.
Bah je te remercie d'être dans le déclic avec nous.
Bah ouais, c'est la première sortie depuis le confinement
c'est
en
vrai
termes de journalisme, alors c'est pas mal.
Eh bah écoute, on est ravis que ce soit
Salut.
Pour nous alors.
Trop contente.
Bah nous aussi du coup. Alors du coup, bah, je sais pas si t'es une familière de l'émission, mais en tout cas on commence toujours par discuter avec nos invités de l'avant-déclic, parce qu'un déclic ça se fait toujours dans un contexte un peu particulier. Donc est-ce que tu peux te présenter brièvement?
Alors je m'appelle Colline Charpentier, à l'heure actuelle j'ai 33 ans. Je suis née en 87, quoi. Voilà. En 1987, pas en 2087, comme m'a dit un élève. Donc, je suis née en 1987. Je suis prof d'histoire géo à Saint-Denis. Je suis aussi en couple. En fait, même, je suis carrément mariée. Non, mais t'imagines. Ça, c'est vraiment un truc qu'on a oublié, les limites. J'habite Saint-Denis et j'ai un enfant de presque 3 ans. Waouh. Et voilà, c'est déjà pas mal.
Bah oui, c'est effectivement ouais. Pas mal. Et donc toi, donc on va en reparler après pour ton déclic, mais tu es aussi celle qui a contribué à dénoncer la charge mentale, ou en tout cas à la remettre sur le devant de la scène. Au-delà de ta carrière, donc tu l'as dit, au-delà de ta carrière d'autrice, t'es professeure d'histoire-géographie en Seine-Saint-Denis, ça fait combien de temps que t'exerces?
Alors, c'est là où je me trompe toujours et que mes collègues me disent « Mais non, Colline, c'est pas ça. » Moi, ça fait 2013, ça va faire 7 ans en fait que je suis prof. Dans le 93, j'ai toujours enseigné dans le 93, j'ai choisi d'enseigner dans le 93.
Oui, pardon, c'est le chat. Bah, pour nos auditeurs, c'est le chat qui fait ses griffes sur le canapé, évidemment.
Salut. Donc, j'ai choisi d'enseigner dans le 93, parce qu'avant, j'habitais Aubervilliers, donc je connais le territoire, et voilà. Et donc, j'ai fait du collège, du lycée, j'ai fait plein d'endroits, et là, ça fait 4 ans que je suis dans le même collège, et où je suis vraiment bien, quoi.
T'as toujours voulu être prof? C'est une vocation chez toi?
Alors, pas du tout. En fait, je voulais absolument pas être prof. En fait, je voulais pas être fonctionnaire.
D'accord.
Parce que moi, je viens d'une famille de fonctionnaires. Ma mère, elle travaille dans les archives. Et mon père, il travaille à l'aide sociale à l'enfance.
D'accord.
Et donc, en fait, quand tu combines les deux, bah, paf, ça fait un prof d'histoire géo dans le 93. C'est horrible en termes de déterminisme.
C'est vrai que c'était un destin qui était pratiquement tracé, quoi.
Non, mais oui, non, mais en fait, bon, bah, 10 ans de psychothérapie, quoi. Non, j'aimerais dire. Mais en fait, bah, avant, je voulais travailler dans la culture, surtout dans tout ce qui était musique. Moi, je suis une passionnée de rock, de nuit parisienne. Mm-hmm. Et en fait, bah, je n'avais pas spécialement les réseaux. Puis je pense que je n'avais pas spécialement envie de me battre aussi.
Ouais.
Enfin, il y avait un peu des deux, quoi. Et donc, en fait, c'est venu d'un seul coup. En fait, pareil, un gros déclic. On m'a mis devant une classe de terminale dans un contexte particulier. Et j'ai surkiffé. Et j'ai dit, en fait, c'est le métier que je veux, déjà parce que c'est du stand-up et que j'aime bien faire du stand-up.
C'est génial.
C'est du stand-up, c'est du militantisme, c'est puis enfin l'histoire géo, ça parle sur tous les tout. Enfin je veux dire, c'est pas les maths, quoi. Bon,
ouais,
après une de mes meilleures potes est prof de maths, donc je veux pas trop cracher, je veux dire c'est pas les maths en termes de compréhension, puis surtout du monde, quoi. Enfin, moi je parle tout le temps du monde. Là en ce moment on parle des violences policières, on parle du racisme. Bah, c'est plus facile avec ma matière qu'avec des maths, quoi.
C'est clair. Ah, en plus, je suis une grande fan d'histoire géo. C'était ma matière préférée au lycée et au collège. Donc,
bah, moi aussi.
Je salue. Mais il y a ce côté aussi transmission. Je pense que toi, tu as la transmission à la fois de ton militantisme, mais aussi pédagogique.
Oui, c'est aussi transformer la pédagogie parce que les élèves que j'ai, c'est pas l'élève que j'ai été, moi. Et en fait, ça a été une de mes premières claques politiques, c'est de découvrir le 93. Dans la chair, c'est-à-dire que moi, en tant que personne blanche, j'ai pas eu les mêmes problématiques que mes élèves. Par exemple, j'ai jamais eu de problème d'arrestation ou de contrôle d'identité ou quoi que ce soit, ce qui n'est pas le cas de mes élèves, même très jeunes. Donc moi, ça a été vraiment, ça a vraiment été une claque de découvrir ça et de découvrir à quel point j'avais été dans une hyper protégée jusqu'à mes 25 ans. Et mes élèves, c'est génial de pouvoir discuter avec eux. Donc oui, j'ai dû mettre en place une pédagogie aussi particulière pour leur permettre d'avoir un espace pour parler aussi, parce que l'école est très descendante.
Ouais.
Et j'ai de la chance d'avoir une super équipe cette année, enfin depuis des années en fait, une super équipe d'Histoire Géo avec qui on travaille sur ces questions-là. Et franchement, ça fait du bien et ça avance. Et j'adore mon métier. Il me fatigue, mais j'adore mon métier quand même.
Bah, c'est magnifique. Bah, surtout qu'en plus, c'est plus des enfants tout à fait au collège. Mais bon, parfois, on a tendance à pas les croire. Et surtout, on va penser qu'ils exagèrent, etc. Donc, c'est vrai que je pense que c'est important pour eux, effectivement, d'avoir un espace sain dans lequel ils peuvent s'exprimer et parler de leurs expériences.
Oui, puis ils ont des questions qu'ils ne peuvent pas forcément poser à leurs copains. Alors moi, en histoire, j'ai forcément de ma formation. En fait, je suis spécialiste d'histoire des femmes. Alors, on disait des femmes il y a 10 ans, mais en fait, c'est histoire des genres.
Ouais.
Voilà, je suis spécialiste surtout des mouvements féministes des années 70.
D'accord.
Donc, mouvement de libération des femmes, etc. Dans ma pratique d'histoire-géographie, j'inclus énormément les femmes. C'est-à-dire, toutes les femmes. Et forcément aussi la sexualité.
Bien sûr.
Ce que c'est aussi la féminité, la masculinité à travers les âges. Et en fait, les questions, elles arrivent toutes seules. Et moi, je suis hyper fière d'avoir des élèves qui me posent des questions sur la sexualité, sur la sexualité, toutes les sexualités, qui n'hésitent pas à me poser des questions. C'est est-ce que c'est important. Normal ou est-ce que c'est pas normal? Sur des questions sur les personnes transgenres, je me dis, c'est qu'ils me font confiance, quoi. Et je crois que mes élèves me font confiance en général. Voilà, donc ça, je suis assez contente. Après, je peux pas plaire à tous les élèves. Mais je veux dire, en général, j'ai quand même une bonne relation avec mes élèves.
Mais d'ailleurs, question aussi qui n'était pas sur ma liste, mais ce côté militant, est-ce que parfois ça t'a desservi par rapport aux parents d'élèves?
Pas du tout. Génial. J'ai jamais eu aucun problème avec les parents d'élèves. J'ai toujours été très, très transparente, c'est-à-dire que je fais le programme, mais je rajoute des bonus. Oui. Et je pense que les parents d'élèves apprécient aussi, par exemple, tu vois, sur la Seconde Guerre mondiale, il y a une résistante qu'on connaît pas beaucoup, enfin qu'on la connaît pas comme résistante, c'est Joséphine Baker.
Bien sûr.
Tu sais
que moi je l'ai découvert surtout avec le bouquin de Pénélope Bégin, sur le tard alors que
c'est complètement ça. C'est incroyable. Mais moi aussi, j'étais pas spécialiste de Joséphine Baker. Clair. Quand je lis Les culottés de Bagieu, je me rends compte que Baker a été donc résistante. Figures. Et à partir de là, en fait, avec mes élèves, on étudie Jean Moulin, forcément.
Ouais, bien sûr.
Parce qu'on peut pas faire autre chose. Une femme blanche. Et après, Joséphine Baker.
Ouais.
C'est-à-dire, parce que justement, elle est passée par les colonies, elle est passée par... C'est génial pour mes élèves.
Incroyable.
C'est-à-dire que ça leur fait du bien. C'est aussi parler des femmes voilées qui sont émancipées, mes élèves n'ont pas une vision de la femme voilée complètement recluse, etc. Mmh. Mais c'est la vision, en fait, que parfois les programmes peuvent lui donner. Donc moi, j'essaie de montrer aussi des figures positives des femmes voilées. Et ça, je pense que c'est vraiment important. J'essaie de montrer aussi, on parle des personnes transgenres pendant la Première Guerre mondiale, par exemple, celles qui se sont travesties. Et puis ensuite, qui ont dit, je me travestis pas seulement, je suis trans. Donc il y a quelque chose vraiment derrière, on a bien travaillé et ça permet en fait d'utiliser tout plein de supports et je crois que ça leur fait du bien à mes élèves et moi ça me fait du bien, c'est-à-dire que je fais de l'histoire que j'aime, quoi.
C'est magnifique. Et du coup, justement, on a parlé un peu de ton militantisme. Est-ce que tu t'es toujours sentie ou considérée comme féministe même dans ton adolescence ou dans la façon dont t'as grandi?
Alors, c'est pas que j'étais féministe, mais j'ai toujours été la grande gueule. Ouais. Tu vois, c'est-à-dire celle qui... ouais. Alors, pas au collège. Au collège, j'étais introvertie. D'ailleurs, quand je pense à ça, ça fait rire tout le monde. Mais, enfin, moi, quand je dis ça, tout le monde rigole. Mais j'étais vraiment introvertie. J'avais peu d'amis. Je parlais pas beaucoup. Et en fait, j'arrive en seconde et vive les hormones, quoi. Enfin, ouais. Sincèrement, merci, quoi. Donc, et je fais du théâtre en même temps, donc ça me donne une sorte d'assurance. Et rapidement, je commence à ouvrir ma bouche sur les inégalités. En ouais. fait, pour moi, les inégalités sociales, c'était vraiment ce qui me touchait le plus. Et forcément, en fait, l'inégalité de genre aussi me touchait, en fait. Mmh. Mais ce n'était pas mon combat premier. C'est-à-dire ouais. qu'en plus, il y a 20 ans... Oh, la vache. Oh, c'est sale, ça.
Pardon.
Et il y a 15 Navré. Ans... Enfin, je veux dire, il y a 15-20 ans... c'était pas vraiment... Enfin, c'était pas ce dont ouais. on parlait le plus.
C'est clair.
En revanche, rapidement, dans mes études d'histoire, je m'intéresse à l'histoire... Des genres, en fait.
Ouais.
C'est-à-dire que ça vient... Alors, sur les Grecs, ça vient... sur l'Antiquité, c'est tout de suite. Et après, en fait, de tout mon parcours, je vois bien que je m'intéresse beaucoup à l'histoire des femmes.
Ouais.
Voilà. Et...
C'est un peu naturel, quoi. C'est venu naturellement...
C'est vraiment quelque chose qui m'intéresse... En fait, c'est vraiment quelque chose qui m'intéressait. Alors, est-ce que c'est parce que ça parlait cul et que le cul m'a toujours intéressée?
Why not?
Pourquoi pas, tu vois? Genre, peut-être.
Et alors?
Tu vois? Peut-être. Mais en tout cas, j'ai vraiment aimé ce côté-là. Et puis, je pense aussi que ça me parlait. En fait, c'est tout bête, mais ça parlait de mon quotidien. C'est-à-dire, quand on me parlait de femmes au Moyen-Âge,
ouais.
Des badass, machin, qui étaient à fond, je me disais, ah ouais, non, mais moi, j'ai trop envie de ressembler à ça, c'est tu clair. Vois. Donc, je pense aussi que ça m'a beaucoup intéressée. Puis après, j'ai déménagé. J'étais plus à la Sorbonne, j'étais au Mirail, donc à Toulouse. Et à Toulouse, bon, bah là, il y a un bastion d'histoire des femmes qui est quand même assez incroyable. Et puis, bah, ça m'a mis le pied à l'étrier, quoi.
Et en fait, ces questions, elles ne sont pas anodines parce que de toi et ton parcours va découler ton déclic. Donc, celui de dénoncer la charge mentale qui pèse un poids très lourd sur les épaules des femmes. La charge mentale, on en parle beaucoup aujourd'hui, mais en fait, c'est quelque chose... Est-ce que tu en as déjà entendu parler auparavant? Parce que ça a été... c'est un principe sociologique qui a été abordé dès 84 par Monique Ecco. Mais est-ce que toi, tu en avais déjà entendu parler avant de toi-même dénoncer?
Alors, avant d'en entendre parler, je l'avais entendu par la bande dessinée de Emma en 2017. Ouais. Donc voilà.
Tout le monde, en fait.
Ah, voilà. Et en fait, avant, pas spécialement. Après, mon compagnon est sociologue.
Oui.
Et sociologue du travail.
En plus.
Donc.
Ça se recoupe.
Ouais, en fait, ouais. Si tu veux, ça se recoupe. Mais j'en étais pas à parler de charge mentale, de charge émotionnelle. En revanche, moi, mon mémoire sur le féminisme, il est quand même sur le travail domestique gratuit. Tu voilà, vois, donc
ça vient pas de nulle part.
Donc, ouais. Non, mais ça vient pas de nulle part. Moi, j'ai travaillé sur les revendications des féministes dans les années 70, sur le travail domestique gratuit, sur la question, en fait. Enfin, moi, j'ai rencontré des lesbiennes politiques hein, qui m'avaient dit si vous êtes contente que votre mari passe l'aspirateur, tant mieux pour vous, mais en fait, le mieux, c'est de pas avoir de mari. Et j'avais été trop choquée, sérieusement. Ouais. Aujourd'hui, je comprends, tu vois. Ouais. Genre, aujourd'hui, je fais, en fait, ouais. Bon, en fait, désolé, chérie.
Carrément.
La
chance d'être là.
Et j'avais été trop choquée en mode, ah là là, elle est extrémiste, cette meuf, ouais. Un truc de ouf. Mais en fait, maintenant, c'est pas que je pense qu'il faut être célibataire ou lesbienne ou quoi que ce soit. Enfin, parfois, je le pense, mais en tout cas, c'est pas le message que je veux faire passer. Moi, ce que je veux surtout, c'est qu'on arrive à égalité sur les tâches domestiques. Et j'ai bien dit à égalité, pas à équité.
Non.
C'est, et qu'on on réfléchisse aussi à notre lien avec le travail. Parce que qui dit travail domestique gratuit, dit aussi temps qui est pris par le travail,
ouais.
Payé, rémunéré. Et celui-là, je pense qu'il y a quand même... On a beaucoup de choses à travailler là-dessus pour pouvoir ensuite avoir des revendications aussi sur le travail domestique gratuit. C'est-à-dire, si les mecs prennent 2 minutes tous les 10 ans, c'est un manque de volonté réel, soyons honnêtes, mais il y a aussi le côté où ils sont plus au travail, donc ils revendiquent le fait qu'ils gagnent plus, le fait qu'ils travaillent plus, et donc ils travaillent moins à la maison. Et moi, je suis pour une égalité... pas parfaite, parce qu'on n'y sera jamais,
bien sûr.
Parce qu'on ne va pas compter les points non plus, parce que je ne vous dis pas, sinon dans la maison, comme ça va être le bordel. mais concrètement, c'est d'arriver à une sorte d'égalité qui permet à chacun d'avoir du temps libre, parce que moi, je revendique d'avoir du temps libre. Voilà.
Sans avoir à penser, c'est surtout... En
voilà, fait... c'est avoir du temps libre, sans avoir à penser, pour son bien-être personnel, sans produire quoi que ce soit, Et ça, dans les sociétés où on est, c'est je pense, c'est même bien plus important que bon, alors je dirais pas qu'un salaire, parce que les gens qui gagnent très peu vont me dire il faut quand même pas déconner, et je suis d'accord avec eux.
Bien sûr.
Mais le temps libre en soi, c'est vraiment pour moi de l'or en barre, quoi. Et surtout quand on a des enfants.
Ouais, c'est clair. j'ai pas encore cette charge-là, mais effectivement, quand je vois parfois le partage des tâches avec mon copain aussi, et je me dis, mais parfois, on n'est pas prêt du tout à avoir des enfants. Parce que bon, c'est surtout, d'ailleurs, ça a été abordé, je vais faire un aparté, mais ça a beaucoup été abordé, notamment par toi, qu'effectivement, la charge mentale peut être à peu près équitable ou égalisée dans un couple sans enfant, mais une fois que le premier enfant arrive, tout part à volo, et ça peut être que la femme qui...
Bah oui, en fait, ça part à volo aussi parce qu'on joue des rôles. Mmh, en fait, moi, c'est là-dessus aussi où je me bats largement. C'est les rôles stéréotypés dans le couple hétérosexuel qui sont en fait des charges, que ce soit pour l'homme ou pour la femme. Par exemple, une des charges que les hommes ont, c'est faire le premier rendez-vous, payer le resto, faire la demande en mariage, proposer l'installation, c'est-à-dire toutes ces premières fois. Qui sont pénibles, en fait, parce qu'il y a des hommes aussi qui n'ont pas ce type de caractère. Ouais. Et de l'autre, avoir des femmes qui entretiennent en permanence. Et en fait, ça prend, alors, ça prend beaucoup plus d'énergie que de faire les premières fois, on est d'accord. Mais en fait, ça enferme aussi dans un rôle, celui de l'entretien permanent de la relation avec « il faut qu'on parte en vacances, parce que si on part pas en vacances, c'est qu'on n'est pas amoureux. Et que, en fait, si je fais pas ça comme ça, c'est qu'on n'est pas amoureux. » Et en fait, ça détruit l'amour. Et je suis à peu près sûre que toutes les grandes ruptures que des gens connaissent, c'est certes, il y a des gens qui ne s'aiment plus, mais aussi le fait que on joue des rôles, en fait, dans nos couples, et ça nous tue, tout simplement. Donc moi, je suis pour la fin des rôles genrés dans les couples hétérosexuels. Parce que j'en peux plus.
je peux pas dire mieux, j'ai rien à ajouter.
J'en peux plus.
Et du coup, ça fait une très bonne transition sur ton déclic, en fait. Donc, à quel moment ça t'est venu, en fait, de créer ce compte Instagram et de libérer la parole des femmes par rapport à ce poids psychologique qu'est la charge mentale?
Alors, j'ai regardé il y a pas longtemps, j'ai ouvert le compte le 20 novembre 2018.
Ouais.
Sachant que mon fils est né en octobre 2017. Donc, quand j'ouvre ta pensée à, mon fils a 1 an. Voilà. Ouais. C'est pour vous donner un contexte. Il faut savoir aussi que c'est l'année où mon compagnon s'est retrouvé muté à Nantes. Mmh. Donc, il était 3 jours par semaine à Nantes, avec un enfant de 1 an. Et c'était assez compliqué. Sachant qu'on passait déjà une crise... Ouais, on a été en crise depuis le mois d'avril 2018, justement à cause de la charge mentale, parce qu'il ne se rendait pas compte de la pression que je me mettais, qui n'était pas une pression qui venait de lui, mais qui était une pression que je prenais en disant « je veux être comme ma mère et comme mes sœurs qui sont mères et je dois absolument être comme ça avec mon fils. » C'est-à-dire faire telle chose avec mon fils, faire telle chose...
Préparer maison, les petits plats.
Ouais, et en fait, si j'y arrivais pas, c'est que j'étais pas une bonne mère.
Ouais.
Et ça, c'est ça le problème de la maternité, c'est qu'au début, l'enfant, il est tellement accroché à la mère d'un point de vue physiologique qu'il est très difficile de prendre du recul. Ouais. En fait, c'est vraiment une claque. Et chacun joue un rôle parce que, au niveau de la dose de love que tu te prends, de la difficulté de nuit sans sommeil et des difficultés parce que, par exemple, il a mal au ventre, il crie et tu sais pas pourquoi.
Et ça, et toi, tu paniques.
En fait, tu te réfugies dans des rôles et c'est tout à fait normal. Ouais. Tu vois,
tu te raccroches à quelque chose que tu connais.
Tu prends un mode d'emploi, en fait. C'est ça, voilà. Un mode d'emploi.
Tu te raccroches à quelque chose qui est rassurant, qui est un mode d'emploi, quelque chose que tu connais, un schéma.
Voilà. Et en fait, moi, ça m'allait pas parce que déjà, j'avais plus de temps pour moi, ni pour sortir, parce que je suis une grosse fêtarde, ni pour militer, parce que, en fait, dans mon métier, je fais aussi du syndicalisme, je suis assez investie, etc. Et en fait, ça me faisait péter. En fait, ça m'a fait péter un câble au bout de 6 mois. Alors, il y a des femmes, elles peuvent endurer ça pendant 10 ans, mais franchement, les meufs, chapeau. Moi, au bout de 6 mois, en fait, je pense que j'ai pas de patience, quoi. C'est-à-dire, au bout de 6 mois, voir ma vie autant transformée, mais c'était l'horreur. En fait, c'était l'horreur. Je me suis dit, mais c'est ça, être mère, mais stop, quoi. Sauf que c'est trop tard, quoi. Enfin, voilà.
Tu peux pas le rendre, il n'y a pas de...
Et donc, avec mon compagnon, c'était très, très compliqué. Et quand il est parti à Nantes, c'était déjà un peu chaud. Et en novembre 2018... Je suis au parc, parce que c'est le mois de novembre où il faisait très bon. Et, et j'entends, en fait, j'entends des femmes parler de tout ce qu'elles ont à faire. Et on a deux points communs. Elles sont profs et elles sont féministes.
D'accord.
Donc, en fait, bah, c'est parce qu'à Saint-Denis, ça s'est beaucoup gentrifié aussi au centre-ville. Donc, bah, j'ai des copines profs et féministes au centre-ville. Quoi. Et elles parlent toutes de charge mentale, en fait. C'est-à-dire qu'elles ne parlent même pas de tâches domestiques. Elles sont en train vraiment de dire, je suis en train de prévoir mon déménagement, il me faut ça, ça, ça. Et puis, il faut que je passe faire les courses parce qu'il a oublié ça. Et elles parlent toutes de ça. Et elles ne parlent de rien d'autre. Et je dis, c'est pas possible. Et j'essaye de me dire, dans ma semaine, qu'est-ce que ces femmes... De quoi elles parlent, en fait. Et là, je me rends compte que toutes les femmes que je connais et qui sont mères ne parlent que de ça, en fait. C'est-à-dire, elles parlent
d'organisation,
de machin, de trucs. Et je me dis, mais c'est pas possible. Alors, moi, au boulot, il y en a très peu qui ont des enfants. Donc, au boulot, il n'y a pas de conversation sur les enfants. Et merci. mais en dehors de ça, et là, je me dis, mais c'est pas possible. En fait, on a parlé de charge mentale avec Emma, mais en fait, on ne nous a toujours pas entendus. Tu sais, ça fait, ouais, t'as raison. Et puis après, tu tournes la tête de l'autre côté, tu fais « Voilà, bah ça y est, ouais, t'as raison. » Et puis en fait, tu fais pas de changement. Et pour moi, c'était ça. C'est-à-dire qu'on avait dénoncé, et puis après, on avait repris nos vies, notre tourbillon, et puis en disant « Bah, c'est pas grave. » Et je me suis dit « Mais comment je peux faire pour aider les copines ?» Parce que franchement, ça me fait vraiment mal au cœur. Mais vraiment, c'était ça. Et puis je sais pas, c'était un lundi soir, quoi. Et je m'endors. Et le matin, je me réveille et je fais « Oh, j'ai rêvé d'un truc. Je vais ouvrir un compte Instagram. »
Génial.
Et en plus, j'avais rêvé d'un truc, il allait s'appeler Ta Pensée.
Non, c'est incroyable.
Non, mais oui, non, mais c'est pour
trop
ça.
Trop bien, j'adore cette
et
histoire.
Non, mais vraiment, c'est ce qui s'est passé. Le lundi soir, je pose une question sur Instagram à mon compte personnel de 200 abonnés, où je dis hey, les filles, vous connaissez un compte sur la charge mentale? Mais vraiment, je pose la question. Ouais. FM, non, je connais pas, non, je connais pas. Et le soir, je m'endors, j'ai Ta Pensée en tête, je me réveille le matin, et en fait, j'ai des réflexes de bloquer le mail.
Ouais.
Bloquer le nom sur Instagram, bloquer le nom sur Twitter, bloquer le nom sur Facebook. Je sais pas pourquoi, tu vois, j'ai jamais été community
comme
manager.
Comme un réflexe, quoi.
Ouais, réflexe. Et le soir, après avoir couché mon fils, je commence mes petits cartons.
Incroyable.
Avec ce que les copines m'ont envoyé, quoi. Et j'explique ma démarche. Et en fait, ma démarche, elle était assez ambitieuse dès le début. Enfin... Je me suis dit, mais en fait, Colline, t'es quand même bien... Enfin, quand tu vas dans un truc, tu vas à fond. J'avais décidé que le matin, il y avait des analyses sociologiques et le soir, on mettait un carton. Bah ouais, j'ai le temps le matin de faire une analyse sociologique pendant que je change la couche de mon gamin, quoi.
Avant d'aller enseigner, en plus.
Avant d'aller enseigner, quoi. Enfin bon, et c'est ce que j'ai fait pendant 4 mois. C'est-à-dire que pendant 4 mois, j'avais une journée où j'avais des analyses sociologiques. Donc, bah, j'avais les bouquins à la maison, je reprenais des trucs... et puis bah rapidement en fait j'ai des milliers de témoignages et là mademoiselle me contacte alors moi je me suis socialisée au féminisme aussi avec grâce à mademoiselle qui depuis a dit que j'étais quand même déprimante et donc en gros je prends 10 000 abonnés en 10 jours quoi.
Incroyable.
Et là, en fait, je me transforme en community manager et en attaché de presse. Puisqu'après Mademoiselle, j'ai été contactée par 35 journalistes.
Incroyable. 35 ?
Ouais, j'ai fait... Non, mais tu regardes les interviews entre novembre et décembre, je suis partout, en fait. Je suis même en Belgique, en Suisse et au Canada, mais j'en pouvais plus, quoi.
T'es partie au Canada ?
Oui, bah ouais,
incroyable.
Grave.
Incroyable.
Non, mais genre, j'étais partout, quoi. J'étais là, genre, on va peut-être se calmer, en fait, les choupettes, parce que...
Et puis, ça arrivait d'un coup, quoi, en pleine année scolaire.
Ah ouais, puis alors, en plus, si tu veux, pour aller jusqu'au bout du déclic, hein, donc j'ouvre le compte le 20 novembre et je reçois un mail... le 10 décembre, donc on est d'accord, genre 15 jours plus tard, du livre de poche.
C'est pas vrai.
Qui me dit « Bonjour Colline ».
Dès ce moment-là ?
Ouais. Incroyable. « Bonjour Colline, nous avons beaucoup aimé votre démarche. Vos cartons sociologiques sont très intéressants. Est-ce que ça vous intéresse de faire un livre ?»
C'est ouf.
Et là, je me dis « Le livre de poche ?» Le livre de poche.
C'est ce moment-là où tu relis l'adresse mail pour voir si c'est pas une fake.
Non, mais
tu
clairement.
Vois.
Et j'étais là, le livre de poche. Et le même jour, alors ça s'est pas fait, j'avais reçu un mail de l'Union européenne pour faire une. Non, mais du Parlement européen pour faire une expo sur la charge mentale.
Incroyable.
Avec Ta Pensée. Et j'étais là, non, mais En fait, on va arrêter. Non,
mais bientôt,
parce que
moi, t'étais invité avec Beyoncé, etc.
Non, mais moi, j'en pouvais plus. Mes collègues, mais au plus, en début, la. Enfin,
15 jours après, en plus.
Non, mais la réaction de mes proches, elle a été hyper violente. Parce que, bah, en fait, ils ont. Mon mec, c'est pas le mec qui va. Enfin, je veux dire, il fait plein de choses.
Ouais.
Mais il pense pas. Et en fait, les gens, ils comprennent pas la différence, tu vois. C'est-à-dire que moi, j'explique toujours, sur une maison, au-dessus, t'as des engrenages qui sont le fer, et au-dessus, tu as un nuage qui sont les pensées. Moi, mon mec, il faisait beaucoup d'engrenages. Tu vois, par exemple, pour te faire rire, hier soir, j'ai voulu faire un petit mensonge avant qu'il rentre, et je lui dis, ouais, je suis en train de passer l'aspirateur, et il m'envoie un texto, mais l'aspi, il remarche. Et en fait, j'étais même pas au courant que notre aspirateur était en panne depuis 15 jours, tu vois. J'étais là genre, ah bah non, apparemment, il marche pas, tu vois. Donc, mon mec, il fait des choses. Ouais. Il fait, et largement. Et, et je suis pas chanceuse, mais en fait, il fait sa part.
Ouais.
En revanche, il pensait pas à cette époque-là. Ouais. Donc, les gens, ils comprennent pas. Déjà, ils me disent que je suis en train de régler mes comptes de couple devant tout le monde. Alors, je dis, bah non. Et puis après, il y a mes collègues. Genre, je réponds plus aux mails comme je répondais avant. Je suis prise, j'ai l'air fatiguée. Je suis un peu stressée, je suis tout le temps sur mon port. En fait, je découvre ce que c'est d'être community manager.
Ouais.
Et je découvre autre chose, c'est quoi être militante féministe sur Internet. Et franchement, je suis bien contente d'avoir eu 15 ans de militantisme dans les pattes pour pas péter un câble sur cette période-là. Hein. Parce que...
Justement, une de nos questions qui venait après, mais on va en parler maintenant vu que tu l'abordes, t'as pas eu peur de frôler parfois le burn-out militant?
Ah, mais je l'ai frôlé. Hein. Ouais. En fait, mais je vais te dire carrément, je l'ai frôlé, mais je l'ai touché, en fait. D'accord, j'y suis allée. En fait, en novembre 2019, j'ai fait 6 semaines allongée dans mon lit. Alors, je l'ai pas dit à beaucoup de monde. Hein. En fait, ce qui s'est passé, c'est qu'après, un an après ta pensée A, il y a eu l'écriture du livre l'été dernier.
Ouais.
En fait, j'avais 6 semaines pour écrire mon livre. Et parce que j'avais pas mon fils et que je m'étais arrangée avec les grands-parents pour que mon fils soit pas dans mes pattes.
Ouais,
parce que on peut pas écrire, en fait, on peut pas produire et avoir un enfant, c'est pas possible.
Surtout donc, aussi jeune, quoi.
Aussi jeune, c'est pas possible. Donc, je voyais mon fils tous les 15 jours, mais fait, je l'ai envoyé 6 semaines chez mes parents, quoi.
D'accord.
Et ça m'a pris du enfin je veux dire ça m'a pris une énergie folle. C'est que d'habitude en fait les étés je me repose et quand j'ai repris les cours
t'étais pas reposée du tout.
J'étais pas reposée, j'avais une charge émotionnelle extrêmement forte puisque j'atteignais les 12 000 témoignages. Donc ça a commencé.
Oui, parce que là il y a ça aussi, il y a aussi le fait, excuse-moi je te coupe, mais il y a aussi ce côté-là qu'on ne voit pas forcément en tant que spectateur ou en tant que lectrice comme moi, c'est qu'effectivement il y a aussi cette charge et cette force émotionnelle qui est quand on reçoit des témoignages qui peut être dur à vivre aussi parce que c'est parfois des situations de détresse qui peuvent être très difficiles à vivre.
Ah bah non mais moi j'ai des situations de détresse de toute façon, aujourd'hui donc au début, je les recevais dans mes messages privés. Maintenant, j'ai un site qui est encore en construction parce qu'en fait, je ne me bouge pas le cul pour écrire les trucs. Genre, mon webmaster est en train de péter un câble, je pense. Mais en gros, si tu veux, moi, quand quelqu'un poste un témoignage, je reçois un mail avec le témoignage. Quand je reçois des témoignages à 4 heures du matin, je sais ce que c'est.
Ouais.
C'est-à-dire que je l'ouvre que quand je suis en capacité de pouvoir le lire. C'est-à-dire, il y a une détresse émotionnelle, il y a une détresse émotionnelle, psychologique, physique parfois, des témoignages de violences physiques, par exemple, où comme les rôles genrés, les mécanismes de la violence utilisent les rôles genrés, par exemple, tu n'as pas fait la vaisselle, tu n'as pas servi le repas à l'heure, bon, bah, je te pousse contre le mur.
Ouais.
Voilà. Ça, j'en ai eu pas mal. Alors, je dirais pas que j'en ai tous les jours, évidemment, et encore heureux, mais j'en ai pas mal. Et surtout, les comptes Instagram, c'est la première porte où les femmes osent dire qu'elles sont victimes de violences. Donc, il faut pas louper le coche.
Ouais, c'est une petite boule de neige au départ.
Voilà, et en fait, c'est plus facile parfois de se confier à un compte Instagram quelconque. Tu vois, plutôt qu'à ses proches, plutôt qu'à sa famille. Donc moi, en fait, j'ai mis en place un protocole que j'ai monté avec une copine qui est assistante sociale qui va me permettre, en fait, de me protéger et de botter en touche parce qu'en fait, je ne peux pas accompagner toutes ces femmes. Ce n'est pas possible.
Non, et puis, il faut que tu penses à ta santé mentale aussi.
Voilà, c'est ça. Santé mentale qui est quand même, en général, assez fragile. Donc je fais très attention à ça. C'est-à-dire que quand je sens vraiment que ça ne va pas, je fais pas de témoignage. C'est-à-dire que si pendant un mois il y a pas de témoignage sur ta pensée A, c'est juste que moi je peux pas.
T'es pas en capacité.
Voilà, je suis pas en capacité. Et puis il y a un autre truc aussi, c'est que je suis pas en capacité de modérer les commentaires.
Oui.
Parce que...
Il y a beaucoup de débats en dessous aussi.
Les débats en dessous sont parfois très violents. Ouais. Parfois même, je suis incapable de relire les commentaires. Je sais que j'ai une armée d'abonnés hyper gentils, hyper bienveillantes, qui vont vraiment aller dans les commentaires, qui m'aident en fait, m'aident sans s'en rendre compte finalement. C'est parce qu'elles ont envie de faire avancer le débat, mais qui m'aident vraiment. Et ça, alors déjà, je les remercie, mais ça m'aide à avancer, etc. Ouais. Mais c'est vrai que là, par exemple, pendant le confinement, mais c'était une horreur, ces commentaires. Mais une horreur. J'étais là, genre, mais c'est pas possible. En fait, maintenant, je vais poster et je mets plus de commentaires. C'est pas possible non plus, tu vois, parce qu'on a besoin. Il y a des femmes qui ont besoin aussi de dire, bah, moi aussi, ça m'arrive, bah, moi aussi, c'est difficile. Mais en fait, ces commentaires, mais je suis là, genre. Mais c'est pas possible. On va faire un guide des commentaires bientôt parce que vous vous rendez pas compte.
Il faudra un modérateur, quoi.
Voilà. Et en fait, le problème, c'est que c'est pas mon métier.
Bah non.
C'est pas mon métier.
Il y a assez de choses à penser en plus.
Ouais, c'est ça. Et donc, c'était vraiment une question qui arrivait rapidement sur ta pensée à est-ce que je prends quelqu'un avec moi ?
Ouais.
Si je prends quelqu'un avec moi, est-ce que je la paye ? Et donc, dans ce cas-là, ça veut dire qu'il faut que je fasse rentrer de l'argent. Et si je fais rentrer de l'argent, comment je le fais ? Enfin, voilà. Ça pose des questions éthiques par rapport à mon positionnement face à une société capitaliste.
Bien sûr.
Donc, apparemment, je me prends beaucoup trop la tête. Mais en fait, moi, ça me...
Non, je comprends.
Ça me pose des questions de payer quelqu'un
à
faire un travail et dans quel rôle ça me met. Si je mets quelqu'un bénévole... Bah, ça veut dire aussi qu'elle va porter le fardeau avec moi et, et en fait qui je choisis, bah, je peux pas choisir une copine parce que c'est trop compliqué de gérer ça avec une copine. Est-ce que je gère ça avec des militants que je connais pas? Bah non, en fait c'est pas possible non plus parce que j'ai besoin de connaître la personne. Par exemple, tu vois, je sais pas moi, cette personne en fait elle a des propos transphobes.
Enfin, tu le sais pas quand tu discutes avec
tu vois,
elle.
Genre, tu sais pas parce qu'en fait, c'est pas possible non plus.
Ouais, c'est clair.
Donc, j'ai beaucoup de mal à faire confiance. Donc, ce qui fait que je suis encore toute seule.
Encore maintenant. Ah ouais,
donc, je suis encore toute seule à gérer. Et ça, c'est compliqué. Alors, la seule chance que j'ai, c'est qu'au livre de poche, j'ai une attachée de presse qui me permet de régler tout, qui est super, qui est Maude, je t'embrasse chouchou. Et j'ai aussi quelqu'un qui me gère mon administratif, c'est-à-dire billets de train si je vais quelque part, qui gère la tournée pour le livre. Ça me fait du bien parce que sans elle, je pense que je serais déjà en train de péter un cap.
C'est
quoi.
Clair, tu veux pas en plus réserver tes vols, tes trucs, tes trains, tes hôtels.
Non, c'est pas possible. C'est pas possible, surtout que si tu veux, on est même allé plus loin, puisque maintenant j'ai un troisième métier. En fait, j'ai une maison d'édition depuis 6 mois.
Je savais pas, félicitations.
J'ai une maison d'édition de féminisme révolutionnaire,
faite
par des autrices que par des femmes.
Ok.
Femmes aussi, c'est trans, hein, parce que maintenant, il faut le préciser. Mais évidemment, il faut le préciser dans le sens où, vu les attaques que les personnes transgenres sont en train de se prendre, chez nous, c'est femmes cis et trans qui sont acceptées.
Je pense, écoute, je pense qu'on le préciser maintenant aussi.
Et ça s'appelle Les Daronnes.
D'accord, ok.
Voilà, c'est édition Les Daronnes.
Trop bien. Bah, on mettra des petits liens dans les commentaires.
Ouais, de toute façon.
Donc, en parlant de ton déclic, on parlait du fait que tu avais 6 semaines pour écrire ton livre, que tu es revenu complètement crevé. Donc, on parlait de ce burn-out militant. Et depuis, est-ce que ça va mieux ? Est-ce que ça t'a fait prendre conscience aussi de tout ça, du fait qu'il faille te faire aider ? Ou est-ce que tu as un peu levé le pied ?
Alors, en fait, si tu veux, il y a eu d'autres choses aussi. C'est que j'ai été très déçue par le militantisme Instagram.
Ouais.
Je pense que tout le monde ne peut pas aller en manifestation, tout le monde ne peut pas aller dans des associations, donc c'est bien qu'il y ait les réseaux sociaux. Mais je pense aussi que ça crée des images extrêmement lisses et que ça lisse les discours. C'est-à-dire que moi, si tu veux, les femmes, les abonnées qui sont sur le compte, ce sont des femmes qui n'ont pas forcément le même vécu que moi. Et c'est-à-dire, leur parler de lesbianisme politique, c'est pas trop possible, tu vois. Et leur parler révolution, féministe dans le sens où moi je l'entends, c'est très compliqué. C'est qu'après, je dois me prendre des milliers de réponses de gens qui me disent « Oui, mais t'es quand même un peu extrémiste, machin, tout ça. » Et en fait, je le comprends parce que moi, j'essaye de parler à toutes les femmes et à toutes les femmes qui font un premier pas dans le féminisme. Ça, c'est vraiment mon but, sauf que devoir lisser à fond mon discours, ça me gonfle. mais j'en ai marre. En fait, j'en ai vraiment marre.
Et de devoir prendre des pincettes pour chaque personne.
En fait, d'essayer de calculer en permanence ce que je vais dire en stories en me disant attention.
Et comment réagir en fonction des
retours.
Voilà.
Et et ça, en fait, ça me gonfle. Et si tu veux, il y a autre chose aussi qui m'a un petit peu où j'ai mis le haut là. C'est qu'il y a une différence entre médiatisation et action. Mmh. C'est-à-dire que tu peux faire des actions qui ne sont pas médiatisées et qui ont de l'importance, et tu peux faire des actions et tu peux être médiatisé et ne faire rien, en fait. Tu vois, ça s'appelle un buzz. Voilà. Moi, en fait, je suis pas une meuf de buzz. Concrètement, je n'aime pas ça. Je n'aime pas les coups d'éclat. Les moments où on ne prend pas le temps de réfléchir, où on va faire une vidéo combinée pour dénoncer un truc, mais qu'en fait, il y a rien derrière. Ça me rend malade, tu vois. Mais genre, parce que pour moi, c'est mettre son énergie sur des choses qui ne sont pas correctes et qu'on pourrait mettre ailleurs. Et en fait, je me suis rendu compte que j'avais peu d'alliés dans les comptes Instagram féministes. D'accord. Et ça m'a
un petit... une bonne claque,
quoi. Ouais, ça m'a mis une bonne claque. Ça m'a mis une bonne claque. J'ai pris beaucoup, beaucoup, beaucoup de recul, mais genre vraiment beaucoup. Et finalement, j'ai trouvé les copines avec qui je peux échanger sur ces questions-là. Donc, il y a Irénée, qui a un compte plutôt féministe révolutionnaire, donc qui s'appelle Irénée Névrose, et Charline d'Orgasme et moi. qui sont vraiment les femmes sur lesquelles je m'appuie concernant le militantisme Instagram, parce que je sais qu'on pense la même chose. C'est-à-dire, on ne fait pas dans le coup d'éclat, on est sur de l'action de fond, on parle à tout le monde, on essaye de faire en sorte d'avoir un discours qui n'est pas lissé, et on avance ensemble. Et ça, franchement, je peux te dire que c'est les deux meufs sûres qui me font du bien.
Ça te fait de bonnes épaules
sur les questions. Et tu vois, et c'est qu'ils me disent aussi, par exemple, là, j'ai désactivé ta pensée A pendant 15 jours, parce qu'en fait, j'ai pété un câble, justement, par rapport à ce militantisme. Et elles m'ont dit, même si t'as plus ta pensée A sur Instagram, en fait, tu vaux toujours quelque chose.
Ça ne retire pas tout
ça. Ça ne retire rien. Et en fait, comme moi, je me suis construit grâce à ta pensée A, c'est très compliqué pour moi de me dire que si le compte n'existe plus, je n'existe pas, en fait. Et alors que non, tu vois, puis c'est une question d'ego aussi.
Bien sûr, mais c'est des questions. De toute façon, on est très insécure toujours pour soi-même.
Enfin, c'est ça.
Tu ne dirais pas ça à Charline ou à quelqu'un. Tu ne lui dirais pas ça.
Non, mais bien
alors
sûr.
Alors que tu le penses pour toi, tu vois.
Voilà. Et en fait, je me retrouve, si tu veux, à devoir. C'est la question de l'ego, quoi. C'est-à-dire, on a tous des égos fragiles. Je pense bien en sûr. Plus que les Instagrammeuses, en général, elles ont un égo un peu plus important que les autres. Même si je vous aime, les filles. Mais je veux dire, on a quand même une question d'égo à remplir. Et en fait, moi, je me suis rendu compte en arrêtant Instagram 15 jours, en désactivant carrément ta pensée A. C'est-à-dire, elle n'était plus visible. Qu'en fait, je valais toujours quelque chose. Ça m'a fait un bien fou. Mais un bien fou. Et moi, je me suis dit...
Ça t'a permis de prendre du recul.
Ah, mais ça m'a permis de prendre un recul de fou. Et surtout, ça m'a permis ensuite de lancer ta pensée à le second volet. C'est-à-dire là, aujourd'hui, on va recevoir des sociologues.
Génial.
On va recevoir des sociologues. Bah, là, par exemple, le samedi 20, donc le podcast sera déjà... Enfin, ça sera plus tard. On a reçu. Tiens, t'as vu, je le mets au passé. On a reçu Sybille Golac et Céline Bessière qui ont écrit Le Genre du Capital. On va recevoir des sociologues et on va aller en fait dans le dur. Et je pense que moi, c'est ça que j'ai envie de faire, c'est-à-dire faire du truc de fond, en fait, de l'action de fond, quoi.
Et pour reparler de ton déclic, en fait, pourquoi tu as particulièrement choisi Instagram pour dénoncer tout ça? Parce que tu avais envie de quelque chose de joli avec les panneaux Instagram?
En fait, Facebook, c'est pour les vieux. D'ailleurs, je te reparlerai de ça après, mais t'as pensé à aller sur Facebook, mais les commentaires, c'est une boucherie. Mais c'est le pire. J'ai dû arrêter tellement c'est une boucherie, mais c'est encore pire qu'Instagram.
Ah non, mais c'est...
Twitter, c'est assez oppressant. J'avais très, très peur des mascus.
Moi, je voulais te demander aussi si tu avais eu des raids de mascus, etc.
On va en reparler, j'avais très peur des masculinistes, donc j'ai pas voulu. Et Instagram, en fait, c'est la famille, tu vois. T'es bien, tu vois des photos.
Ça permet de faire un joli petit jolie enveloppe.
Tu utilises Canva comme tout le monde et tu fais des jolis trucs. Non, mais c'est une belle enveloppe, tu vois. Et pourtant, moi, je suis pas spécialiste du beau, mais en fait, c'est quand même venu tout seul. Et je me suis dit, c'est très féminin Instagram. Donc ça va dans la tranche d'âge qui m'intéresse, c'est-à-dire le 25-35 ans. Mm-hmm. C'est très féminin et j'aurais pas de raid de mascu sur Instagram.
En plus.
Bon, alors maintenant ça a changé, mais
ils sont partout.
Voilà, ils sont partout, hélas.
Mais oui, non, mais Facebook, de toute manière, tu sais que moi, je ne vais plus du tout sur ce réseau social. Je garde uniquement Facebook pour les événements parce que c'est pratique et pour Messenger. Mais sinon, bah, c'est vrai qu'à chaque fois que je suis sur Facebook et que je vois des articles sur des questions féministes, des questions de racisme, des questions de transphobie, etc., dès que je vois même l'aperçu des commentaires, mais je pète un câble, quoi. Enfin, c'est vraiment...
Ah non, mais les gens là-bas, c'est une boucherie. C'est une boucherie, mais je pense que c'est parce que aussi ce sont des gens qui n'ont pas l'habitude des réseaux sociaux et de l'écrit.
Ouais.
Donc ça part en sucette tout de suite, quoi.
Et tu nous le disais un petit peu, donc tu as évidemment des témoignages qui viennent maintenant sur ton site, et à la base c'était des témoignages de tes amis.
Ouais, alors j'ai eu quelques amis, je dirais pas plus de 5 ou 6, ouais. Parce que en fait le mademoiselle a donné un boost après. Oui.
Qui a été assez rapide,
je crois que j'ai retrouvé l'article de mademoiselle. Le compte est ouvert le 20, l'article de mademoiselle, c'est le 25 novembre. Ouais. Quoi. Donc, j'ai pas eu le temps.
C'est très,
plus.
Très rapide.
Enfin, je veux dire, je suis quand même. Mais au début, je postais deux fois par jour. Mais la productivité. Non,
une
mais
community vraiment, manager
ouais.
incroyable.
Ouais, non, mais...
Les agences de pub les détestent.
C'est ça, ouais. C'est ça.
Et est-ce que tu t'as. On va parler un petit peu de cet après, donc de maintenant. Est-ce que tu t'attendais à un tel succès pour ta pensée hein?
Alors, non.
Évidemment.
Mais en fait, ce que je m'attendais pas, si tu veux, c'est que j'ai l'impression de débloquer des paliers à chaque ouais. fois, tu vois. Genre. Et c'est très particulier aussi de passer. Alors, j'aime pas ce mot, mais en fait, c'est vrai dans le sens personnage public, tu vois.
Ouais.
Genre, surtout depuis qu'on voit ma tête.
Oui, parce qu'à la base, sur ta PA, on savait pas trop qui était derrière.
Bah non, tu vois, j'ai jamais
Twitter,
mis de photo
ouais.
de moi et tout.
Ouais, ouais.
Et en fait, après, je me suis dit, il faut que j'incarne le truc.
Ouais.
Il faut que j'arrive.
Surtout avec le livre.
Voilà, surtout avec le livre, mais surtout aussi parce qu'on a besoin de savoir que je suis maman.
Ouais.
En fait, tu vois, il y a aussi. Bon, alors, j'ai les cheveux rouges ou roses, ça dépend de mon humeur. Mais je veux dire, les gens ont besoin de savoir aussi qui
ouais.
est derrière. Et je veux dire, la première fois que ça m'a vraiment choquée, où ça m'a mis un peu par terre, j'étais en grosse soirée boîte de nuit en avril de l'année dernière, puisque évidemment en avril de cette année, c'était fermé, hein. Donc avril 2019, je suis très saoule, mais genre vraiment... Et je suis avec mes deux meilleurs potes,
ouais.
Et là j'entends « Oh, c'est Colline de ta pensée à !» Et tu sais,
incroyable.
Et là je me retourne mais j'étais vraiment
l'alcool très... qui descend
et là, mais en fait grave j'ai redescendu direct et je fais oh et là mes deux potes qui étaient on était au fumoir désolé
en
là, là c'est pas bien la cigarette donc on était au fumoir et là il y a mes deux potes qui me regardent ils font bah ouais c'est Colline quoi enfin
incroyable
et enfin ils me connaissent depuis 10 ans quoi
ouais.
Et là je me suis dit, ouais il se passe des trucs ou alors tu vois dans les manifs féministes qu'on me reconnaisse ça me paraît c'est normal
oui, oui.
En revanche on m'a reconnue dans des manifs contre les retraites tu vois genre des gens qui ont 45-50
ouais.
balais qui viennent me voir et qui me disent merci
incroyable
j'étais là genre mais merci de quoi enfin tu vois en plus les gens ils
ouais.
osent pas trop en fait c'est ça moi c'est ça qui m'a fait le plus peur entre guillemets c'est que les gens ils osent pas venir me voir
ouais.
Tu vois, genre.
C'est là que tu vois que t'es passé un peu de l'autre côté de la barrière.
Et là, je me suis dit, non, mais il se passe un truc, quoi. Et genre, je me souviendrai toujours de cette petite dame pendant les reprises, pendant les manifs retraites. J'étais avec mes collègues, qui vient me voir, qui me tient la main et qui me regarde droit dans les yeux et qui me dit merci. Et qui s'en va. Et je lui dis, mais merci de quoi ? En fait, ma collègue me dit, mais Colline, merci pour ta pensée.
Ouais.
Et elle me dit, ah, j'étais là, genre, ah, d'accord.
Ouais,
ah, d'accord. Et aussi. Enfin, comme je suis assez cash comme meuf et que je raconte beaucoup ma vie, ça se voit dans cette interview.
Bah, c'est fait pour en même temps. Ça aurait été,
en fait,
ça aurait été court sinon comme format.
En fait, il a fallu que j'apprenne à me protéger aussi.
Ouais.
Tu vois, par exemple, il a fallu que j'apprenne à me taire sur des questions de mon couple, sur
ouais.
Ou alors que j'apprenne à me taire dans des. En fait, j'en ai eu marre à un moment parce que j'avais certaines personnes qui me présentaient juste comme ta pensée à.
Ouais.
Et genre quand j'arrivais à une soirée, les gens ils il disait ah, c'est la meuf féministe de ta pensée sur la charge mentale, et genre c'était parti pour toute la soirée où ouais. je me prenais des balles sur le féminisme alors que j'avais juste pas envie quoi.
Tu rentres dans un débat que t'as absolument pas déclenché.
Voilà, et puis surtout je suis pas que ta pensée en fait.
Ouais, et puis je suis plein d'autres choses, je suis plus que ça,
et enfin même si ça fait beaucoup déjà, enfin
j'étais plein d'autres choses.
Je suis plein d'autres choses, et ça a été très compliqué aussi d'expliquer à certains proches que je voulais pas qu'on me présente comme ta pensée.
Ouais.
Et que en fait j'étais pas que ça. Donc ça ça a été dur. Et ce qui a été fou aussi, c'est mon rapport aux médias. Enfin ouais. J'ai quand même fait 3 télés, dont Daphné Burkini, oui, etc.
J'ai regardé pour préparer ton interview.
Et pas un moment j'ai été impressionnée. C'est-à-dire, ouais. Si tu veux,
j'étais hyper à l'aise.
En fait, j'avais l'impression d'être de marcher sur du coton. Ouais. Tu vois, genre, en fait, je me rends jamais compte de ce que je suis en train de faire. Et c'est plus tard, tu vois, c'est les autres qui me disent.
Bah, d'où le merci de quoi ? Parce que tu te rendrais pas compte que sur le moment, la personne te remercie pour ce que tu veux dire en tant que militante.
Enfin, c'est. Tout le temps, c'est comme ça. Genre, ouais. Je reçois des messages de femmes qui me disent, mais tu peux pas savoir, t'es mon déclic féministe. Mais je suis là, genre, mais. En fait, tu vois, j'ai juste fait un truc sur Instagram, quoi. J'ai pas fait un truc de ouf. Enfin, pour moi, j'ai pas fait un truc de ouf. Et surtout, tu sais, c'est les gens qui me disent, oh, elle a fait un travail incroyable. Tu sais, j'étais là, genre, j'ai pas eu l'impression de travailler. Ouais. J'ai pas l'impression de faire. Parce que pour moi, c'est du militantisme, et donc j'essaye de rendre service aux gens.
C'est ce que j'allais dire, justement. C'est peut-être justement tout ce rapport au militantisme qui est tellement ancré en toi que tu te rends même plus compte, en fait, de ce que tu transmets, de ce que tu.
Ouais, c'est ça. J'arrive pas à savoir quel
impact tu puisses
avoir. Et puis surtout, c'est l'impact. Parce que si tu veux, quand tu milites, par exemple, comme moi, je militais dans les facs, pour les élections universitaires. L'impact, s'il était direct, ça votait ou ça votait pas. Tu vois, genre, c'est savais. Ça.
C'est pas le travail de longue haleine, quoi.
Là, tu vois pas, par exemple, quand la charge mentale est rentrée dans le dictionnaire en novembre 2019, donc c'est-à-dire un an après l'ouverture de ta pensée, et après le battage médiatique que j'ai fait, j'ai des copines qui m'ont envoyé des textos en me remerciant que ça soit rentré dans la. Mais en fait, non. C'est qu'on est tous des engrenages, tu vois. Donc si moi j'en parle et que je fais du tapage, bah ouais, en fait ailleurs ça va, en fait ça prend.
Il y a une résonance.
Je suis pas celle qui je suis pas porte-parole des meufs qui ont un problème de charge mentale, tu vois, ou qui ont. Moi, ce que je voudrais bien à terme, c'est réussir en fait à monter ou à rejoindre en fait des mouvements féministes, mais qui soient en fait des mouvements féministes qui permettent de parler du travail domestique gratuit et de parler de cette égalité, et qui permettent en fait d'aller plus loin, parce que là on est beaucoup sur les violences, ce qui est normal, je veux dire, je suis pas en train de dire il y a des combats plus importants que d'autres, mais aujourd'hui on a besoin d'une offensive très forte sur le travail domestique gratuit. On a besoin en fait de s'organiser, de discuter, parce que c'est ce rapport au travail qui fait. Donc moi j'ai pas l'impression, en fait si tu veux, moi j'ai pas l'impression d'avoir fait des trucs de ouf, parce qu'en fait le débat il est toujours pas arrivé sur la sphère politique et la sphère syndicale.
Ouais.
C'est-à-dire que moi, le jour où un député va commencer à parler de travail domestique gratuit et de charge mentale, je me dirais, ouais, meuf, là, t'as bossé. Là, ok, on est d'accord. Là, en fait, on est juste sur un soulèvement, si tu veux, d'une base, on n'est pas encore arrivé, en fait, à ce que je considérais comme quelque chose d'important. Là où j'ai considéré que j'avais bien bossé, c'est quand je suis arrivée au mois de mars, il y a eu une journée par un syndicat belge, les assises de la charge mentale.
Ouais.
Et en fait, où ce syndicat belge incroyable a proposé des solutions par rapport au travail rémunéré. Génial. Face au travail domestique gratuit. Et j'ai été invitée en tant qu'experte, machin. Super. Donc, experte machin pour pouvoir discuter, en fait, de ça. Et là, je me suis dit, ouais, là, ok, tu pèses. Tu vois, genre, là, tu pèses, t'es invitée en tant qu'experte, tu fais les choses. Ok, là,
dans
tu pèses.
Dans un débat politique, on est politisé. Bon, on est sur
Mais en fait, tout le reste, pour moi, ça reste de la médiatisation, et il faut qu'on aille beaucoup plus loin. Alors après, moi, je ne sais pas comment faire. Voilà, je le dis. Je ne sais pas comment faire. Je ne sais pas comment faire parce que déjà, ça veut dire que ça me rajouterait encore une charge d'organiser un débat politique, un mouvement.
Ouais.
Enfin, un mouvement ou une prise de position.
Ouais.
Que pour l'instant, les seuls mouvements qui parlent de travail domestique gratuit ou de congé paternité sont des associations qui se sont assises à la table du gouvernement et qui se sont félicitées de ce qui avait été décidé. Moi, je suis suis absolument pas d'accord avec ça. Donc pour moi, c'est non. Pour moi, c'est la même chose. Hein, le congé paternité, s'il est porté que par des hommes blancs de plus de 40 ans qui sont cadres et qui expliquent, en fait, qui ont toujours très bien gagné leur vie et qui expliquent à quel point ça les a épanouis, en fait, pour moi, c'est pas un débat, en fait. Ouais. C'est-à-dire que c'est pas possible. Pour moi, le congé paternité, c'est pour tous les hommes, absolument tous les hommes, qu'ils soient cadres, ouvriers, qu'ils soient intérimaires, c'est-à-dire forcer, en fait, les entreprises à le prendre. Et on peut pas se contenter à dire, ah ouais, non, il nous faut 3 semaines, point barre. Non, en fait, c'est pas possible. Donc, le jour où on commencera à parler de travail domestique gratuit dans les partis politiques, vraiment, et ça voudrait dire que les femmes sont revenues, parce que c'est surtout pour ça qu'on en discute.
C'est clair.
Le jour où on arrivera à parler de travail domestique gratuit et de charge mentale et que on aura une politique par rapport où on va mêler travail rémunéré et travail domestique gratuit, et bah ce jour-là, là, moi, je suis là, en fait. Okay. C'est-à-dire que moi, je n'attends que ça. Je n'attends que ça. Mais je n'ai plus... Enfin, pour l'instant, je n'ai pas la force de porter ça parce que je ne peux pas tout faire.
Ce qui est tout à fait compréhensible.
C'est ça. Mais j'ai quelques idées, mais je ne peux pas en parler maintenant.
Teasing. Et d'ailleurs, à part ton quotidien, donc ce que tu disais, ton quotidien militant, est-ce que ça a changé quelque chose par rapport à ton quotidien avec tes élèves? Est-ce que tu les éduques aux féministes? Est-ce que tu leur parles de charge mentale? Comment tu fais?
Alors déjà, mes élèves, ils n'étaient pas au courant de ta pensée avant la sortie du livre en janvier.
D'accord.
Voilà, donc notamment parce qu'ils ont une fascination un petit peu compliquée sur le nombre d'abonnés d'un compte.
Ah bah, c'est la génération.
Et que je suis à 120 000, un peu plus de 120 000, et que déjà là, ils sont en train d'halluciner. Et en fait, en janvier, ils m'ont découvert parce que maintenant, regarde le thème, etc. Ouais. Et elles ont dit, mais c'est ta prof d'histoire.
Il y a Madame Charpentier à la télé.
C'est ça. Et donc là, en fait, je suis revenue. Et ce qui a été très, très, très bizarre, c'est que j'avais des élèves de 6e, 5e, donc que je n'ai pas parce que les petits ne comprennent pas mon humour. Mais vous comprenez, hein, parce que des fois, vous-même, vous avez du mal à comprendre mon humour. Donc, les 6e, 5e ne comprennent pas mon humour. Mais ils étaient devant ma salle, parce que j'ai ma propre salle.
Ouais.
Et ils me regardaient avec des yeux, mais genre de Merlan frit, en disant « Waouh, j'ai une star dans mon collège. »
Madame, c'est une star.
Genre, et donc, j'étais là genre... Pff. Voilà, donc, et mes 4e, 3e, ça a changé quelque chose parce qu'ils se disent que je leur ressemble comme je suis sur les réseaux sociaux.
Ça te rapproche d'eux dans un sens.
Les filles me font beaucoup plus confiance. D'accord. C'est-à-dire, depuis janvier, j'ai des confidences sur des choses difficiles. Donc, ça a rajouté un peu de charge émotionnelle.
Évidemment, bien sûr.
Mais en fait, c'est bien parce que, en fait, elles m'ont étiquetée féministe. Les garçons, ça va aussi. Moi, je parle tout le temps, d'égalité des genres. Ouais. Donc, ça n'a pas changé ma pratique. Oui. Ce qui a changé ma pratique, c'est de leur dire de fermer leur bouche, excusez-moi, quand ils parlent de choses genre « Madame, je vous ai vu à la télé », oui, bah moi aussi, tu vois, genre je leur dis moi aussi. Et donc, bah rien, je dis « Bah là, tu m'as en vrai, en plus, en plus t'as la copie, la vraie, quoi. » Et ils étaient là genre « Ouais, c'est mieux quand même, voilà, on est d'accord. » Donc, voilà, ça n'a pas changé. En revanche, ça a un peu changé aussi mon rapport aux collègues et au travail. J'ai toujours été très investie, cette année, c'est pas possible.
Ouais.
Et mes chefs sont très cool.
Le déplorent un peu,
Enfin, ils le déplorent, mais ils comprennent.
Ouais, voilà. Tant mieux.
Donc,
t'as l'air d'être bien entourée.
Non, je suis bien entourée au travail. J'ai pas de soucis au travail. Donc,
Mais du coup, tu leur en parles un petit peu de charge mentale à tes élèves ou pas trop Est-ce qu'ils t'ont posé la question, en fait ?
Bah ouais, s'ils me posent la question, j'y réponds. Le problème, c'est qu'après, quand on me lance sur la charge mentale, c'est pas fini. Je voudrais faire
plus. Il y a un programme à respecter.
Voilà, je voudrais faire plus. Cette année, on a eu une action d'une association sur l'égalité des genres qui est venue. Et les deux personnes ne savaient pas qui j'étais.
Ouais.
Et elles me disent, oui, alors je ne sais pas si vous savez ce que c'est la charge mentale.
Non. Très peu.
Avec deux collègues, ils étaient morts de rire. Je m'étonne. Aussi un petit peu. Mais c'est bien, ça veut dire que comme je ne me présente pas comme ça.
Tant mieux.
Vaut
mieux ça que le contraire.
Je ne leur ai toujours pas dit. Donc c'était trop.
Ah, génial.
Non, je dis oui, je connais bien, j'ai bien étudié, machin. Enfin, bref, donc les collègues étaient morts de rire. Et en fait, j'ai fait ces séances-là. Et par exemple, eux, ils en ont parlé de travail domestique gratuit. C'était qui fait quoi à la maison, tu vois. Et je trouvais ça hyper bien parce que ça me permettait aussi, comme les adolescents sont pourvoyeurs de normes genrées très, très, très fortement, c'est-à-dire que ce sont même eux les garants des normes genrées. C'est normal parce qu'ils se construisent.
Bah, bien sûr.
Donc en fait, moi, ça me permet aussi de voir si la société, elle bouge un peu, si tu veux. Et bah, j'ai été étonnée. il y a la société, elle bouge un petit peu quand même sur ces questions-là. Alors, pas tout le monde, surtout de la part des garçons, mais de la part des filles, on a quand même des nanas qui disent « moi, ça passe plus, quoi ». Donc, c'est là, genre « c'est bien bah, ». Ouais. Non, je dis pas « c'est bien » parce que je suis pas là pour leur dire ce qui est bien ou mal. Je suis prof. Mais dans ma tête, je fais
une petite lueur dans les yeux quand même voilà, qui dit
ouais. Voilà, donc à part ça, ce côté-là un peu relou de la prof elle est à la télé, ça va quoi, j'ai pas de soucis. Bon. S'il y a des gens qui disent que j'ai moins de problèmes dans mes classes depuis que je suis médiatisée, ce qui est vrai, en fait j'ai moins de bêtises.
Ouais, d'accord.
Il y a une sorte de espèce de respect qui s'est installé, mais tu vois, enfin, l'année prochaine, ça sera fini.
Bah oui, parce que...
Genre, c'est un état de grâce de 2 mois et après, on n'en parle plus, quoi. Puis après, il y a eu le confinement, quoi. Donc,
en plus.
Voilà, je ne peux pas te dire si ça va changer, quoi.
Mais d'ailleurs, dans la sphère privée, sans trop rentrer dedans, ce qui n'est pas anodin, c'est que tu es maman d'un petit garçon. Et donc, comment tu fais pour l'élever de façon féministe et aussi pour l'élever en le mettant loin des schémas qui pourraient reproduire la charge mentale
Déjà, j'ai accepté qu'il allait pas être loin des schémas genrés.
Ouais.
Tu vois, parce que ça, c'est le premier truc à faire, c'est de se dire que de toute façon, ton enfant, il est pas dans une bulle.
C'est ça.
En revanche,
et qu'à l'école, etc.
C'est de se dire en permanence, j'essaye de lui donner des clés de compréhension du monde, quoi.
Des clés pour en sortir aussi.
Le bon vocabulaire, tu vois, par exemple, hier il était dans le train, il dit j'étais avec 3 garçons, je dis ah bon pourquoi c'était des garçons, cheveux courts, alors que lui-même a les cheveux longs, hein, passons. Ouais. Je lui dis bah non en fait c'était 3 filles,
ouais.
Et je lui dis tu sais les filles elles peuvent avoir les cheveux courts, ah oui t'as raison, enfin tu vois genre,
ouais.
En fait c'est juste lui donner des clés de compréhension, d'essayer de pas refaire des choses. Après comme mon compagnon fait beaucoup de choses à la maison, notre fils reproduit plus facilement, puisque en fait on sait d'un point de vue psychologique que les enfants qui se reconnaissent dans un genre, donc par exemple les petits garçons qui se reconnaissent dans leur papa, font la même chose que leur papa en fait. Donc si le papa fout rien, le petit garçon fout rien en fait. Voilà, c'est comme ça. Et il en plus, il y a une sorte de sacralisation autour du genre dans lequel il se reconnaît. Si la personne, par exemple, si le petit garçon se reconnaît dans son papa, il va considérer que tout ce que fait maman, en fait, c'est pas très important. Ouais. Donc, c'est la même chose. Par exemple, si la maman est la seule à cuisiner, bon, bah, la cuisine, c'est quand même pas très intéressant.
Ouais.
Moi, j'ai de la chance d'avoir un... Enfin, j'ai de la chance, non. En fait, si, bah si, il adore cuisiner, en fait. C'est-à-dire qu'il a... Bon, moi, je m'en fous. Lui, il adore cuisiner et il cuisine avec notre fils. Il cuisine largement avec notre fils. Notre fils est capable de faire lave-linge, sèche-linge. Oui, je sais, c'est pas écologique, mais on a un petit appartement. Non, mais je le dis parce qu'on m'a déjà attrapé la veste plus d'une fois, donc c'est bon, quoi.
Mince. merde, qu'est-ce que je vais faire de mon lave-linge,
sèche-linge ? donc il met dans le sèche-linge. Il est capable de ranger son linge. Il sait qu'il faut pas laisser traîner les choses.
Et il a 2 ans et demi, en plus.
Et il a 2 ans et demi, quoi. Et quand il rentre de vacances et qu'il y a de la litière sur son tapis, il prend l'aspirateur, quoi. Donc ouais,
s'il est réparé, l'aspirateur.
Non, bah ouais. Là, non, il n'est pas réparé. Donc, non, mais voilà, en fait, il est... puis, il a des petites tâches. En fait, ce qui est important, c'est aussi de les responsabiliser très tôt. Par exemple, mon fils, il est responsable des croquettes des chats. Donc, c'est super important.
Bah ouais.
Enfin, je veux dire... Et donc, tous les matins, avant de partir chez la nounou, il met les croquettes.
C'est trop mignon.
Et, je lui dis, attention, tu dois mettre les croquettes. Et il fait, oui. Et là, il fait. Je lui apprends à penser à ça.
Ouais.
Mais après, bah, il vit pas dans une bulle, quoi. Et puis, bah, il va rentrer à la maternelle, il va rencontrer d'autres enfants.
Qui sont élevés différemment.
Qui sont élevés complètement différemment. Et puis, il va découvrir qu'en fait, bah, il y a des rôles stéréotypés. Mmh. Et puis, bah, on passera derrière. Et puis
bah, parfois, il y a l'école aussi qui continue à vectoriser aussi ces stéréotypes.
Oui. Hein, clairement,
c'est le problème,
j'ai un petit
aussi.
Peu peur de la maternelle, clairement, mais en même temps, je me dis, il a une mère féministe, voilà, bah non, mais les armes, c'est un truc, ça me rend ouf.
Il a les armes pour déboulonner tout ça aussi.
Voilà, oui, non, mais bien sûr, il va trouver tout ça. Il a un père qui est quand même un très bon père, il a moi qui suis quand même une bonne maman féministe engagée. Mmh. Bon, bah, à sa crise d'adolescence, à part s'il devient de droite et qu'il veut faire une école de commerce...
Et qu'il a un pull sur les épaules.
Excusez-moi pour tous les pulls sur les épaules. ce qui est sûr, en tout cas, c'est que je suis pas inquiète, quoi. Enfin, je suis pas inquiète sur, sur et surtout qu'il se sente responsable de lui-même. En fait, moi, c'est ça que j'en veux à l'éducation genrée, c'est de déresponsabiliser les mecs sur la question de intérieur, quoi. C'est-à-dire on les déresponsabilise sur les émotions et on les déresponsabilise sur la propreté, etc. Et moi, ou sur les papiers. Mais en revanche, on va les surresponsabiliser sur le métier qu'ils doivent faire. Moi, ça me rend ouf, en fait. C'est-à-dire qu'il faudrait essayer de faire en sorte que ça s'équilibre. Pareil sur la question émotionnelle. Les hommes, c'est compliqué, quoi. Apprendre à écouter les autres, à pas donner son avis en permanence ou à expliquer la vie à l'autre. Mais ça c'est un truc. C'est chez tous mes potes, hein. Mais maintenant, il y a une rééducation qui est faite. Mais on fait les choses une par une. Mais c'est un poison, en fait. C'est un poison pour les couples et c'est un poison pour toute notre société d'avoir des hommes qui n'acceptent pas leurs émotions et qui, pour contrôler leur angoisse de pas savoir comment réagir, vont donner des conseils en permanence, des conseils non sollicités, ou dire t'as qu'à, ou il faut, et en fait qui ne comprennent pas les micros expressions et que parfois les gens ont juste besoin de dire les choses.
Voilà, et de besoin d'avoir de l'empathie en face et juste de recevoir le témoignage sans donner son avis.
C'est ça, et ça c'est compliqué. Moi c'est ce que j'essaye de faire avec mon fils, c'est-à-dire qu'il apprenne. Tu vois, par exemple, hier il était dans le train, il y a une petite fille qui est tombée. Il est venu la voir, il lui a dit j'espère que tu vas bien, et il lui a mis la main sur le coude et il lui a dit est-ce que je peux toucher ton coude. Trop non, parce que voilà, en fait on est dans le consentement aussi, on apprend ça,
bien sûr.
Il dit voilà, plus bobo, et il touche le coude et plus bobo et est parti.
Trop chou.
Et je me dis si on arrive à ça avec tous les garçons, mais
on a confiance en l'avenir.
J'ai confiance. Après, je sais que mon fils, ça va être un homme, ça va être un homme blanc, avec des parents bac plus 5, voire bac plus 12 pour mon compagnon, avec un capital culturel très très fort. Il va falloir qu'il apprenne à vraiment écouter les autres, parce que sinon, ça va devenir, excusez-moi, pas un petit con, mais pas loin, quoi.
Et ma dernière question pour finir tout ça, Colline, c'est quoi tes prochains projets, outre le livre, si tu peux nous en parler, évidemment.
Là déjà il y a la maison d'édition qui me prend pas mal de temps.
Ouais.
On a des gros projets avec
les Daronnes, on rappelle.
Ouais, on a gros projets avec la maison d'édition les Daronnes. Je travaille avec Juliette, qui n'est pas toi.
Effectivement. Sinon ça me fait encore encore un truc à penser, tiens.
Donc ça me prend beaucoup de temps. Donc ça c'est bon, et puis il y a le deuxième livre, quoi.
T'as un deuxième bouquin, c'est l'exclu.
Dans ma tête, j'en ai même deux ou trois en plus, mais ça sera forcément sur le couple hétérosexuel. Ça m'intéresse d'écrire un deuxième livre. Alors, pas dans le format guide. Je pense que ce sera plus un essai ou quelque chose d'un peu plus fouillé.
Analytique, ouais.
Analytique, etc. Même si le guide... quand je l'ai écrit, moi, je voulais parler vraiment à toutes les femmes, même celles qui n'ont jamais fait de sociaux, jamais fait de féminisme. Et ça, franchement, je pense que j'ai réussi, tu vois, mon pari. Franchement, j'ai réussi mon pari, je le sais. Parce que j'ai des femmes qui m'ont dit j'ai jamais acheté de livre, j'ai acheté le vôtre, quoi. Donc, j'ai réussi, il n'y a pas de problème. Après, je pense que ça a pu être décevant pour certaines féministes en disant « Ouais, mais il n'y a pas trop. » Ouais, mais en fait, là, c'est pas spécialement aux femmes qui me ressemblent, qui sont engagées et féministes que j'ai écrit. J'ai écrit pour des femmes qui sont pas forcément engagées. Donc le deuxième sera peut-être plus engagé, toujours sur le couple hétérosexuel, parce que c'est des questions qui m'intéressent énormément. Sur la question justement, des sentiments et des rôles genrés qu'on prend dans les couples. Et je pense que c'est là-dessus que je vais retravailler. Mais pas cet été, parce que je vais dormir cet été.
Oui, ce serait bien.
je vais dormir et lire les livres que je vais publier l'année prochaine avec les Daronnes.
Génial. Eh bien écoute, Colline, je te remercie beaucoup d'être venue nous voir, parce que vraiment, ça a été hyper intéressant. J'aurais aimé que ça dure plus longtemps, mais malheureusement, nous ne pouvons pas faire des podcasts de 4 heures.
Ah bon? Je trouve ça dommage.
Je te remercie beaucoup et je te dis à très bientôt. Et de toute façon, on va continuer à te suivre et vous retrouverez tous les liens pour continuer à suivre Colline en bas de description du podcast. Merci, Colline.
À bientôt.
À bientôt, salut. Merci d'avoir écouté le déclic de Colline Charpentier. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à nous le faire savoir sur les réseaux sociaux à 18h17 Production ou à nous mettre 5 étoiles sur votre appli de podcast préférée. Vous pouvez également retrouver nos autres podcasts, La Chanson et L'Apéro, qui sont disponibles eux aussi sur toutes les applis de podcast. À bientôt!
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. HelloFresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. HelloFresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.